Vous êtes bien sur Radio Campus Paris, il est 18h et vous écoutez Chronique démocratique.
Salut, salut, t'as deux minutes ?
Quand on me demande êtes-vous démocrate ?
C'est très frustrant, mais on fait comme on peut.
La démocratie représentative ne suffit plus.
What kind of democracy is that ?
Des mobilisations citoyennes ?
Il faut le progrès, il faut pas la pagaille.
Ah, on doit parler de la démocratie là ?
Tu peux fumer en même temps ou pas ? Ouais, c'est street quoi, je t'écoute.
Un jeudi sur 4 à 18h. Dans l'émission précédente, rappelez-vous, Marie et moi avons parlé de démocratie, ce qu'on entendait par là aujourd'hui, mais aussi d'une de ses formes un peu particulières, la démocratie participative. Nous avions discuté de ce qu'elle était et de ce qu'elle n'était pas. Nous avions tenté de définir ses contours, de comprendre ce qu'elle représentait, quels étaient ses enjeux, quelles étaient ses limites.
L'idée centrale de cette notion, nous l'avions vu, ce n'était pas de renverser le principe de l'élection, mais de renforcer la place des citoyens dans le processus de décision. Autrement dit, les élus, les politiques partagent une partie de leur pouvoir avec les citoyens. Mais une fois qu'on a dit ça, on n'a pas expliqué à quoi ressemblait vraiment cette participation des citoyens. Comment se passe ce partage du pouvoir ? Comment mettons cette idée en pratique ? Sur quoi les citoyens ont-ils la main ? Existe-t-il des outils dédiés, des endroits ou des moments pour faire participer les citoyens ? Concrètement, à quoi ressemble la démocratie participative en action ?
C'est à ces questions que Marie et moi allons essayer de répondre aujourd'hui. Pour cela, nous avons deux invités. Judith Ferrando, co-directrice de l'agence de concertation Mission Publique, et Irina Bonsoc, consultante junior qui travaille avec Judith Ferrando. On est allé les rencontrer à Mission Publique pour échanger et découvrir leur métier, ce qu'elles entendent derrière dispositifs participatifs par exemple. En clair, comment elles fabriquent la démocratie participative ? Au mois de septembre dernier, la ville de Paris était justement en train de déployer un dispositif de démocratie participative. Ça s'appelle le budget participatif. Et ce qui est bien, c'est qu'il y a des stands directement dans la rue. Cela permet un accès plus facile pour échanger avec les citoyens, les passants. Alors avec Marie, nous nous sommes dit, pourquoi ne pas en profiter pour aller voir comment ça se passe, comment ça fonctionne, écouter à la fois ce qu'ont à dire les gens qui organisent et les passants qui participent.
On a rencontré Luna, une des nombreuses vacataires qui tiennent ces fameux stands. Son travail, c'est d'expliquer aux habitantes et aux habitants ce qu'est le budget participatif et de recueillir leur avis.
Alors, pour le 20e arrondissement, c'est pour, c'est déposé par les habitants du 20e.
Oui.
Et pour tout Paris, c'est...
Non, mais là, on ne peut pas voter pour tout Paris. Ça
vous pouvez voter pour les deux.
D'accord.
Donc, vous avez 11 projets dans le 20e,
oui,
pour lesquels vous pouvez donner un avis. Vous pouvez dire que vous l'adorez et que vous avez envie qu'il se réalise,
oui,
ou que vous ne l'aimez pas du tout et que vous n'avez pas du tout envie qu'il se réalise.
D'accord.
Donc vous pouvez donner un avis sur chaque projet.
Mm-hmm.
Si vous avez des questions, je peux vous répondre parce que j'ai tous les projets dans ma tête.
On a rencontré deux habitantes, l'une avait participé et l'autre non. On leur a demandé ce qu'elles pensaient du budget participatif et si elles en avaient entendu parler précédemment.
Par la mairie et par les informations de la ville de Paris que je reçois par mail. Là, je ne l'avais pas vu cette année. Je l'avais vu l'année dernière.
Du tout. C'est vrai que je viens pas ici souvent. Ça fait 2 ans depuis que j'habite ici, mais franchement, non.
Moi, je trouve ça très bien, parce que c'est utile, oui. Je pense qu'il y a quand même pas mal de gens qui votent. Plus on donnera notre avis, je crois que c'est à chacun de s'en mêler un peu.
Ça dépend. Ouais, ça dépend du sujet, ça dépend de quelle participation, quoi. Mais la plupart du temps, c'est même si on donne notre avis, ça, on voit pas les résultats. Enfin, on a l'impression que que ça sert à rien en fait.
On a aussi eu l'opportunité de discuter avec un participant avec un profil un peu particulier.
J'ai un point de vue particulier. Je suis élu. Je pense que c'est un complément par rapport aux actions publiques qu'on mène. Il y a une participation de plus en plus large donnée aux habitants. D'abord à travers les conseils de quartier, puis après les habitants eux-mêmes. Donc oui, c'est un élément intéressant parce que ça permet de pondérer les politiques publiques qu'on mène. Voilà, je trouve que c'est intéressant pour ça.
On sait que le budget participatif n'est pas la seule démarche existante dans le 20e arrondissement. On lui a alors demandé quel était l'intérêt pour un élu d'avoir plusieurs dispositifs.
Je pense que tout dispositif au départ fonctionne et se fatigue un peu. Donc il faut renouveler à chaque fois. les dispositifs. Cette votation citoyenne permet de renouveler le conseil de quartier, permet aussi de renouveler le travail que nous faisons aussi, de l'approfondir, de l'enrichir. Quand je dis qu'il se fatigue, c'est-à-dire que un dispositif, nécessairement, ça a une vie. Donc ça naît dans l'enthousiasme, ça se poursuit dans l'habitude et ça meurt dans l'ennui parfois. Donc si on peut à chaque fois les renouveler, les régénérer, c'est bien.
On lui a ensuite demandé quelle place pouvaient prendre les citoyens dans la vie politique. En tant qu'élu, aurait-il laissé la démocratie participative prendre le pas sur le travail des élus ?
C'est un complément, ça ne peut pas remplacer parce que ce sont des éléments parfois contradictoires. Quelqu'un va vouloir ceci, d'autres cela, et le rôle des élus, c'est justement de faire la synthèse de toutes ces aspirations contradictoires. C'est le suffrage universel. Voilà, c'est ça qui donne quand même le cap de l'action publique.
Tous ces échanges nous ont donné un peu de matière pour comprendre ce qui se joue concrètement sur le terrain de la démocratie participative. Les passants qu'on a rencontrés sont attachés au vote. En revanche, s'ils sont prêts à participer davantage lors de réunions publiques ou d'ateliers, ils connaissaient assez mal le budget participatif ou d'autres dispositifs, comme les conseils de quartier, les conseils citoyens ou les conseils des jeunes.
Mais attends, c'est quoi un dispositif ?
Bah justement, c'est ce dont on va parler aujourd'hui. Les dispositifs, les démarches de démocratie participative. Le budget participatif, c'est un exemple de ce que l'on pourrait appeler un dispositif ou une démarche de démocratie participative. Alors, comment définir ces termes un peu barbares ? On a demandé à Judith Ferrando.
Alors, un dispositif, c'est un ensemble d'actions qui permet à des participants de prendre part à la mise en discussion de choix collectifs, de sujets d'intérêt général. Et un dispositif, ça peut être soit une méthode qui est déjà éprouvée, qui existe par ailleurs et qui est reproduite, soit ça peut être aussi un dispositif inventé, bricolé pour l'occasion, et ça peut être aussi un dispositif inclus dans un processus, et un processus, c'est-à-dire, on peut dire, l'aventure participative que vont vivre les citoyens, les citoyens et les parties prenantes, et puis les commanditaires, ça peut articuler plusieurs dispositifs entre eux. Et au sein d'un dispositif, c'est comme un film, il y a un scénario, et il y a plusieurs étapes, il y a plusieurs scènes, il y a toute une progression entre le moment où des participants, par exemple, arrivent, que ce soit en présentiel ou arrivent en numérique sur une plateforme, et le moment où ils repartent.
En fait, ce sont des espaces qui sont pensés, prévus, pour mettre en place et accueillir la participation des citoyens. Bien sûr, lorsque je parle d'espace, ce n'est pas seulement un espace géographique, spatial, c'est aussi un espace social, convivial, temporel ou réglementaire. On y rencontre des gens pendant toute la durée de vie du dispositif, et l'ensemble de ces interactions à l'intérieur sont plus ou moins cadrées. À l'intérieur, on y trouve un certain nombre de règles. On y rencontre des acteurs avec des rôles différents et qui les définissent. Ce sont des participants, des animateurs ou des politiques. On y échange, on discute sur des objets précis et définis à l'avance. On ne s'exprime pas sur absolument tout ce qu'on veut. Il y a un choix des sujets, des thèmes à aborder. Le budget participatif de Paris ne permet par exemple pas de s'exprimer sur la politique à Bordeaux. En bref, un dispositif de démocratie participative est supposé faire vivre la participation des citoyens, incarner la participation, mais aussi l'encadrer, lui donner des règles. C'est vraiment à l'intérieur de ces espaces qu'il est prévu que les citoyens puissent construire, prioriser, décider, s'exprimer.
Vous êtes sur Radio Campus Paris et vous écoutez Chronique démocratique.
Bien sûr, il ne leur est pas interdit d'exercer leur citoyenneté d'une autre manière et participer à l'exercice du pouvoir en dehors de ces espaces. Mais dans ce cas-là, on parlera plutôt de mouvements sociaux, de luttes urbaines, d'associatifs, d'éducation populaire ou même d'autogestion. La différence, c'est que ces derniers sont des formes qui s'auto-organisent et qui sont plus ou moins autonomes vis-à-vis du pouvoir. Ils tentent de peser sur la décision par un rapport de force avec celui-ci. Là où dans un dispositif de démocratie participative, il est prévu que les citoyens participent à la décision d'une manière ou d'une autre. On est dans un accord plus ou moins volontariste, plus ou moins enjoué, entre les citoyens et celui ou celle qui détient le pouvoir, qui fait la décision finale.
On a parlé du budget participatif, mais comme on l'a dit, il existe encore beaucoup d'autres formes. On peut évoquer pêle-mêle les consultations en ligne, les conventions citoyennes, les concertations urbaines, des ateliers participatifs, des assemblées locales ou encore l'enquête publique. Vous êtes peut-être plusieurs à avoir été amenés à participer à l'un d'eux.
On voit bien la variété des démarches qu'on peut déployer. Mais alors pourquoi en avoir autant ? On pourrait se dire qu'il suffit juste de réunir des gens dans une salle à chaque fois, ou même juste de leur distribuer un questionnaire.
Ils n'ont pas tous le même objectif, les mêmes objets, les mêmes cibles ou le même contexte. Organiser une concertation sur la piétonnisation d'un centre-ville n'est pas tout à fait la même chose que de faire délibérer une centaine de citoyens sur l'avenir énergétique de la France. Il y a plein de critères qui conditionnent le choix des dispositifs qu'on veut utiliser et les stratégies qu'on va mettre en place pour que la démarche remplisse les objectifs qu'elle s'est fixés. Par exemple, selon les critères de participation que l'on a retenus, on trouvera des dispositifs qui cherchent à s'installer durablement et ceux qui ne sont que éphémères. Il y a ceux qui cherchent à faire participer le plus de gens possible et ceux qui recherchent un panel spécifique de personnes, ce qui laisse beaucoup de marge de manœuvre aux citoyens et ceux qui restreignent un peu plus à certaines questions.
Le mieux pour comprendre pourquoi on choisirait tel ou tel dispositif, c'est de se mettre directement dans la peau d'un élu. Marie, tu vas jouer le rôle de l'élu.
Ah bon ? D'accord.
Imagine que tu as un projet pour ton territoire et que tu souhaites associer les citoyens à sa construction.
Ok.
Une des premières questions à se poser, c'est celle de ton ambition. Jusqu'où es-tu prête à aller dans le partage de ton pouvoir avec tes citoyens ?
Je sais pas. Est-ce qu'il existe plusieurs possibilités ?
En fait, il existe une échelle de la participation qui est très connue, qui découle des travaux de la sociologue américaine Cherry Arnstein, et plus particulièrement de son livre « Une échelle de la participation » paru en 1971. La sociologue identifie plusieurs degrés de participation, allant de la manipulation pure et simple à l'autonomie totale des citoyens. Si on s'extrait un peu de ces travaux et qu'on met de côté ce qui n'est pas vraiment de la participation, disons que l'on a trois niveaux principaux. La consultation, la co-construction et la co-décision.
D'accord, j'ai compris. Alors, si je décide de faire une consultation, qu'est-ce qu'on va faire ?
Une démarche de consultation consiste à récolter les avis de ses citoyens. L'objectif, c'est de se tenir au courant des préoccupations des gens, de connaître leurs besoins, leurs demandes, ce qui va ou ce qui ne va pas. On peut même leur demander des idées pour résoudre leurs problématiques. En clair, l'idée, c'est de faire remonter aux décideurs des informations sur ce que pense sa population. On le fait en lui donnant la possibilité de s'exprimer le plus librement possible. La consultation est par nature de la participation, puisqu'elle permet de donner une voix aux citoyens, une voix qui sera entendue par les décideurs. Cependant, elle présente plusieurs limites. D'abord, elle confine la place des citoyens dans un projet à un espace d'expression temporaire. Elle se restreint à une forme de sondage d'opinion et surtout, elle ne garantit pas que la voix sera réellement prise en compte dans la décision finale.
L'Alsace doit-elle sortir du Grand Est ? Pour la première fois, une consultation citoyenne est lancée sur le sujet.
La consultation n'aura de toute façon pas de portée juridique. Elle doit seulement faire pression sur les candidats à la présidentielle. Encore faut-il qu'ils s'emparent de la question.
La consultation est donc le premier niveau de notre échelle.
La consultation, c'est donc de la participation, mais ce n'est pas très ambitieux. Alors, quelle est la différence avec le second niveau ?
La co-construction est déjà plus ambitieuse. Une telle démarche entend associer les citoyens à la construction d'un projet politique. Ce n'est plus seulement demander leur avis, mais véritablement les intégrer dans le processus de construction des projets. Les citoyens ont autant leur mot à dire que les acteurs que l'on retrouve habituellement dans ces processus. Il y a un dialogue qui s'installe, un véritable échange. Ils peuvent répondre, ils peuvent argumenter, souligner leur désaccord, et les décideurs prennent en compte toutes ces remarques et répondent à leur tour. Mais plus qu'une simple discussion, il y a tout un travail de fond qui est assuré derrière par les citoyens eux-mêmes. En général, de telles démarches s'étalent sur plusieurs semaines, voire plusieurs mois, pour donner le temps aux citoyens de s'informer, de délibérer et de formuler des propositions. D'une certaine manière, on a un processus de coopération qui se met en place. Les citoyens sont rendus actifs, on les considère, on les reconnaît comme des acteurs à part entière.
La Convention citoyenne pour le climat et la biodiversité d'Est Ensemble, c'est 95 participants qui ont été mobilisés pendant ces 5 mois de travail.
Les propositions de la Convention citoyenne vont être présentées à l'ensemble des élus d'Est Ensemble et proposition par proposition, nous allons nous positionner.
Alors pourquoi la co-construction n'est que le deuxième niveau de l'échelle ?
C'est parce que malgré la place plus importante que prend le citoyen, ce n'est toujours pas lui qui a le dernier mot. La décision finale revient in fine au décideur, c'est-à-dire celui qui détient le pouvoir. Le citoyen n'est jamais assuré que son travail sera retenu. Ce n'est pas lui qui tranche, ce n'est pas lui qui prend la responsabilité du projet. Et c'est ce qui marque la différence avec le dernier niveau de l'échelle, la codécision.
Alors là, ça veut dire que les citoyens pourront décider avec moi.
Oui, le citoyen a le droit de siège à la table des décideurs. Dit de manière plus simple, une décision ne peut pas être prise sans l'accord explicite des citoyens. Cela peut prendre la forme d'instances mixtes, élus, citoyens, représentants associatifs, qui examinent ensemble des projets et votent de manière égalitaire. On peut aussi imaginer un droit de pétition, par exemple, qui permettrait de contourner les élus, ou bien un droit de veto citoyen. Ce qu'il faut retenir, c'est que dans ce cas de figure, le citoyen n'est pas seulement un acteur incontournable des projets, il en est la pierre angulaire.
Mais est-ce qu'il n'est pas rare dans la pratique de trouver de tels cas ? Cela nécessite une confiance totale entre le gouvernant et le gouverné. Cela demande un volontarisme de la part des élus et une certaine culture de la participation. En plus, même si ces conditions sont réunies, il reste des obstacles réglementaires. La Constitution française, par exemple, ne permet pas à des élus locaux de déléguer leur pouvoir. Ils sont les seuls à en disposer. Mais il est tout de même possible de trouver des démarches de codécision ?
Il est effectivement rare de trouver de telles démarches, mais oui, il est possible d'en trouver. Mais revenons à notre situation initiale. Tu es une élue avec un projet à mener et ça y est, tu as enfin décidé à quel point tes citoyens seraient impliqués dans le projet. Pour les ambitions, c'est fait. Reste à savoir comment mener cette démarche. Nous avons dit un peu plus tôt qu'il y avait un certain nombre de critères à déterminer. Alors, avant de concevoir notre démarche, il faut savoir ce que l'on veut. Quels sont les objets à traiter ? Quelles sont nos contraintes ? De quel budget dispose-t-on ? Quel public on veut cibler ? On a un vrai plan de bataille à mettre en place. Faire de la démocratie participative, ça n'est pas si simple.
Il n'y a pas de baguette magique, mais en tout cas, il y a des bonnes questions. Et effectivement, se poser des questions très simples, enfin c'est basique, mais c'est comme dans tout projet ou comme toute idée qu'on peut avoir, il faut se poser la question de pourquoi, effectivement, qu'est-ce qu'on veut en faire, pourquoi à un moment donné, on va chercher la parole de citoyens ou de citoyens et d'acteurs du territoire plutôt que de raisonner en vase clos. Donc on peut se dire, il y a un déficit démocratique, mais il faut essayer d'aller un peu plus loin que ces grandes intentions pour se dire mais qu'est-ce qu'on est prêt réellement à transformer dans le projet ou dans la manière, par exemple tu parlais de budget participatif, dans la manière de décider où est-ce qu'on met de l'argent.
Ça c'est quelque chose que je vois différent par rapport à le milieu de quand j'ai travaillé en Argentine. C'est en fait une question qui s'est posée depuis le début, c'est le budget. Finalement, le moyen duquel on dispose pour mobiliser les gens dans les temps, les types d'espace lequel on peut occuper, de choisir quels sont les outils desquels on va se fournir pour poser le base des dialogues.
Ouais, c'est vrai que tu as raison là-dessus, Irina. Ça, c'est la première question, le pourquoi. Après, il y a la question de pour qui ? Ou avec qui est-ce qu'on a envie de mettre à bord ? Parce que soit ce sont des personnes qu'on entend peu, soit ce sont les premiers concernés par la question, soit ce sont ceux qui seront concernés demain par cette question-là. Donc vraiment délimiter les publics qu'on veut toucher. Après, simplement se poser la question de comment, c'est-à-dire de la méthode, elle se construit quand on sait à qui on s'adresse et qu'est-ce qu'on a envie de transformer collectivement.
C'est une chose dont beaucoup d'élus n'ont d'ailleurs pas forcément conscience. Ils se contentent de lancer des démarches qui n'iront pas bien loin, car elles n'ont pas de but à atteindre, si ce n'est peut-être d'exister dans l'absolu. Mais disons que tu es une élue avisée. Quand tu t'étais posé la question de l'échelle de l'implication des citoyens, tu avais également réfléchi à ce plan de bataille. Tu sais où tu veux aller. Il s'agit maintenant de rentrer dans les détails. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire concevoir l'animation de la démarche, donc choisir le dispositif.
Oui, il existe énormément de dispositifs. Ils ne sont jamais figés et peuvent se réinventer en permanence. Cependant, il y a comme des catégories, des étiquettes dans lesquelles on peut ranger certains dispositifs. Déjà, parce qu'il existe des dispositifs que les textes juridiques prévoient, comme l'enquête publique. D'autres dispositifs ne sont au contraire pas du tout encadrés par la loi, ce qui laisse une grande liberté dans le choix de leur conception. On peut facilement imaginer un dispositif plus ambitieux en termes de participation dans ce cadre. Et parmi eux, il y en a un qui s'est développé rapidement ces dernières années dans différentes collectivités, structures comme les lycées, mais principalement à l'échelle municipale. C'est le budget participatif.
C'est d'ailleurs un des dispositifs préférés d'Irina Bonzoc.
J'ai quelque chose en attirance avec le budget participatif, parce que je trouve que c'est un des dispositifs qui parle le plus facilement aux gens. C'est facile à voir les effets que ça a dans la réalité, même si je trouve qu'on pourrait l'approfondir un peu plus, fournir de plus de puissance en phase délibérative.
Et c'est vrai que le budget participatif a pour effet principal de conduire à la réalisation de projets portés par les habitants et habitantes à moyen terme. C'est un dispositif qui permet donc à chacun de s'investir en proposant des aménagements, des alternatives qui sont adaptées à leur quartier ou à leur ville.
Si on revient à l'origine du dispositif, il faut rappeler l'ambition portée par le Parti des Travailleurs à Porto Alegre fin des années 80.
Derrière la mise en place du budget participatif, il y a pour les dirigeants une volonté de redistribuer les richesses, en particulier vers les quartiers les plus défavorisés. Car concrètement, la municipalité engage une partie de son budget d'investissement pour financer des projets, des demandes déposées dans les différentes réunions de quartier. En France, l'engouement autour du budget participatif a été progressif, mais il a connu ces dernières années une accélération très importante. On apprend dans une enquête nationale sur les budgets participatifs, dont la synthèse a été publiée par la Fondation Jean Jaurès, que 400 communes ont mis en place un budget participatif. Il en existait 5 en 2014, 92 en 2020, 249 en 2021 et 400 aujourd'hui. À titre d'exemple, on retrouve Paris, Lyon, Marseille, mais aussi Rennes ou Thonon-les-Bains en Haute-Savoie.
Alors comment ça marche ?
Lorsqu'on a fait le micro-trottoir, on a aussi échangé avec Luna Magnier. Elle était vacataire pour la campagne de vote du budget participatif de Paris en septembre dernier. Elle connaît très bien le budget participatif puisqu'elle a aussi travaillé pour une mairie d'arrondissement l'année précédente lors de la phase d'instruction des projets.
Alors, le budget participatif, c'est des projets qui sont déposés par les habitants et habitantes de la ville, donc là, en l'occurrence de Paris, ou des associations. Et ces projets sont soumis au vote ensuite aux habitants et habitantes de Paris qui choisissent ceux qu'ils souhaitent voir réalisés. Et ensuite, les lauréats, là, dans le 20e, c'est 5, sont réalisés par la mairie. Là, c'est 25% du budget d'investissement de Paris. Donc, c'est pas un budget en plus, c'est le budget normal de la ville, mais il y a un quart qui est consacré à ces projets citoyens.
C'est donc une part du budget d'investissement qui est mis entre les mains des habitantes et des habitants.
Un budget d'investissement ?
Le budget des communes, comment ça marche ?
Le budget d'investissement en finances publiques, c'est toutes les opérations qui ont un impact sur nos patrimoines, que ce soit en dépenses ou en recettes.
Le budget d'investissement permet donc d'investir dans la rénovation d'un lieu public, d'acheter du matériel, alors que le budget de fonctionnement comprend surtout la rémunération des agents. D'ailleurs, si le budget participatif correspond à un certain pourcentage du budget d'investissement, certaines collectivités engagent une partie du budget de fonctionnement. C'est par exemple le cas de Nanterre.
Donc voilà la principale raison qui fait le succès du budget participatif. Redonner aux habitants et aux habitantes la capacité de décider du budget de leur collectivité. Mais c'est aussi l'opportunité pour des personnes qui ne sont pas inscrites sur les listes électorales de proposer des projets et de voter.
Pour le coup, le budget participatif permet à tout habitant de voter, même s'ils n'ont pas la nationalité, même s'ils n'ont pas le droit de vote. Et franchement, bah, y a des gens qui étaient contents. Et tu leur dis « vous voulez voter ?» et ils se disent « ah mais non, je peux pas ». Et c'était « bah si, là vous pouvez ».
Il faut aussi distinguer plusieurs phases dans cette démarche. Le dépôt des projets, la phase d'instruction pendant laquelle les services techniques de la ville vont instruire le projet en regardant s'il correspond à certains critères. Puis, à l'issue de cette phase, les projets qui sont retenus sont soumis au vote des habitants et des habitantes. Les citoyens ont donc un véritable pouvoir de décision. De manière plus générale, le budget participatif est confronté à des difficultés de mobilisation. Lors de la phase de dépôt, ce sont souvent les mêmes associations, les mêmes personnes qui proposent un projet. Il y a aussi un enjeu lors de la phase de vote à permettre au plus grand nombre de donner leur avis. Et c'est pour cette raison que la ville de Paris a eu recours au dispositif d'aller vers.
Donc il y a 80% des votes qui est quand même fait dans la rue. Je pense qu'on touche beaucoup de gens qui ne savaient pas et ne connaissaient pas. Donc c'est bien pour ça. Peut-être qu'ils n'ont pas trop conscience de la portée politique de leurs gestes.
Là encore, l'acculturation autour du dispositif est importante. Irina Bonzoc parlait de développer des espaces délibératifs dans le processus, à la fois pour permettre de faire émerger de nouvelles idées, de nouveaux projets, mais également pour obtenir un suivi, une sorte de mobilisation continue. On voulait vous parler du budget participatif parce qu'il est très apprécié par les communes, on en entend souvent parler. Mais si on jette un œil aux autres dispositifs qui ne sont pas encadrés par la loi, il y en a un autre qui place en son centre la délibération.
En tout cas, moi, les dispositifs que je trouve les plus finalement prometteurs pour enrichir la démocratie, c'est des dispositifs qu'on appelle parfois les mini-publics délibératifs, c'est-à-dire des dispositifs dans lesquels il y a un certain nombre de citoyens ou citoyens et parties prenantes, qui peuvent être entre 20 et 200, qui vont passer du temps, donc pas forcément une demi-journée, mais plusieurs journées, plusieurs week-ends, à discuter ensemble d'un sujet vraiment important pour la société. Et pour discuter ensemble, ils vont avoir le temps à la fois de, bah, d'exprimer en profondeur ce qu'ils connaissent de ce sujet, ce qu'ils ne connaissent pas, ce qui les interroge, leurs opinions, et aussi de s'informer les uns les autres déjà, et puis s'informer avec des experts, des militants, des témoins qui vont venir en fait enrichir leurs connaissances. Et du coup, ça crée une opinion publique éclairée. Et à l'issue de ces dispositifs, ce sont les citoyens eux-mêmes qui rédigent des recommandations. Et je trouve que c'est un dispositif qui permet à la fois d'avoir de la connaissance partagée, de déplacer les lignes politiques sur les sujets, et puis aussi de donner beaucoup de pouvoir aux citoyens.
Aujourd'hui, des mini-publics délibératifs font référence aux assemblées de citoyens qui sont constituées, comme celle de Poitiers, mais surtout font référence aux conventions citoyennes, avec l'exemple fameux de la Convention citoyenne pour le climat.
La vertu de la Convention citoyenne pour le climat, ça a été de faire connaître ce type de dispositif. Elle a fait la preuve que le tirage au sort tirait au sort des gens qui n'étaient pas experts ou militants d'un sujet, mais qui s'attelaient avec sérieux à la tâche et qui n'étaient pas des idiots. Et voilà, on s'en va dire, ah, les citoyens sont donc capables de penser à cette question. Donc, si ça permet de faire la preuve de la compétence des citoyens et leur légitimité à prendre part aux décisions publiques, c'est déjà pour moi une grande avancée. Ensuite, avec cette question du sans-filtre et de la surpromesse qui a été ressentie comme une surpromesse ou une promesse non tenue en partie sur la question du sans-filtre, ça a mis l'accent sur l'exigence d'avoir une reddition de comptes. Donc, je dirais que pour ça, ça a fait progresser la cause, au-delà de faire aussi un coup de projecteur sur un enjeu fondamental qui est cette question de la transition écologique.
Aujourd'hui, le Conseil économique, social et environnemental organise une convention citoyenne sur la fin de vie, après avoir été saisi par Elisabeth Borne, la Première ministre. Le Conseil consultatif national d'éthique a rendu un avis le 13 septembre dernier qui interroge le cadre dans lequel des patients, les personnes en fin de vie, peuvent entrer en soins palliatifs. Cet avis propose d'aller plus loin, et c'est pour cette raison qu'une convention citoyenne réunissant 150 citoyens est organisée. Le sujet est sensible et requiert d'aller chercher les propositions, l'opinion des citoyennes et des citoyens. La première session de travaux aura lieu le 9, 10 et 11 décembre prochains et les 9 sessions seront organisées en tout jusqu'à fin mars.
C'est très intéressant qu'il y ait une convention citoyenne sur la fin de vie. C'est des sujets qui méritent d'être mis en discussion. Mais je dirais, aujourd'hui, ce n'est pas suffisant. Enfin, en tout cas, il y aurait sur la question de la fin de vie un intérêt à que cette convention citoyenne, et c'est sans doute ce qui est déjà en partie pensé, soit vraiment corrélée à une mise en discussion, une capacité de débat au sens large, une mise en discussion dans la sphère publique, avec le grand public et des personnes qui n'auront pas la chance d'être tirées au sort ni n'auront pas forcément l'envie de contribuer en ligne si jamais il y a une plateforme numérique. Ça, c'est un point important. Et surtout, le corréler avec les professionnels et les acteurs, parce que c'est très intéressant ce que les citoyens vont pouvoir sans doute auditionner, bien sûr, des porteurs de points de vue très différents. C'est ça la règle d'une convention citoyenne. Mais pourtant, quelles que soient les propositions qu'ils feront à la fin, il va falloir que celles-ci puissent à la fois atterrir dans la loi, mais on sait qu'aujourd'hui, le problème de la loi existante, c'est qu'elle n'est pas non plus complètement mise en œuvre ni connue. Donc l'enjeu n'est pas simplement la loi ou une avancée de la loi, c'est aussi comment ça transforme éventuellement des pratiques, comme des pratiques médicales, des pratiques associatives, comment ça les accompagne et ça ne laisse pas ceux qui sont en bout de course seuls avec une application de la loi.
Et il existe d'autres dispositifs qui témoignent d'une grande créativité de leurs concepteurs.
C'est très bien que ces dispositifs de perspective ne soient pas figés et continuent à se recréer. Imaginez, c'est ce qui se passe par exemple au Japon. Il y a des expériences sur le fait qu'une partie des participants endosse un rôle qui est celui des générations futures et pas celui des générations présentes. Toutefois, il y a quelques règles, il me semble, c'est que d'abord, les citoyens savent à quoi ils jouent, donc que les règles du jeu soient claires, quelle va être leur capacité à peser sur la décision, quel va être le retour qui va être fait vers eux, à quoi ça sert en fait, à quoi on joue, est-ce qu'on joue à prendre le temps, faire en sorte que tout le monde soit bien inclus et qu'on partage la parole, qu'on partage à un moment donné les mêmes informations.
Et là, il y a quelque chose aussi par rapport à l'importance de pouvoir argumenter. Je trouve le choix méthodologique qu'on fait, trouver la façon de le faire face aux citoyens aussi. Parce que quand on se dit qu'on parle des enjeux qui sont sérieux, des choses qui leur tiennent au cœur, et on arrive avec des méthodologies qui ont peut-être une face trop ludique, ça peut donner l'impression qu'ils ne sont pas pris au sérieux.
Vous êtes sur Radio Campus Paris et vous écoutez Chronique démocratique. Ok, alors tout est prêt. J'ai bien réfléchi pendant des mois pour que notre démarche colle à nos attentes. Mais alors attends, qu'est-ce qu'on demande aux participants et qu'est-ce qu'ils font maintenant qu'ils sont assis devant nous dans notre super dispositif ? À quoi ça va ressembler leur séance de travail et comment concrètement ça va se dérouler ?
Même si tu as minutieusement choisi ton dispositif, maintenant qu'il est là, il s'agit de le rendre vivant, lui donner corps, l'animer en somme. Parce qu'on a beau avoir pensé à sa démarche en long, en large et en travers, si on n'a pas réfléchi au déroulé, aux règles qu'on fixe, au temps qu'on accorde, si on n'a pas réfléchi à l'animation de nos séquences, on n'en tirera strictement rien.
Alors vas-y, je prends des notes.
D'abord, comment se déroule la séquence ? Il faut qu'ils sachent dès le début pour combien de temps ils sont venus, quel sujet ils sont venus traiter et comment va se dérouler la séquence. Par exemple, on peut imaginer notre atelier citoyen en trois étapes. Une première étape où on va poser les bases d'un sujet, une seconde étape qui consiste à leur demander si, sur ce sujet, ils rencontrent des problématiques, et une dernière où ils vont proposer des solutions pour résoudre ces problématiques. On a beaucoup de choses à faire, et le temps est précieux. Il faut donc que chaque étape de l'atelier soit millimétrée. C'est un vrai numéro d'équilibriste, et on ne peut pas demander aux participants à la fois de travailler et de s'assurer que tout se déroule sans accroc. Non, il faut des animateurs, des personnes qui sont là pour garantir que tout se passe bien.
Les animateurs ont un rôle central dans le dispositif, pour les raisons qu'on vient d'évoquer, mais aussi pour rendre la séquence la plus agréable possible. Une concertation, ça peut être intimidant. Tout le monde n'est pas à l'aise à l'idée de s'exprimer publiquement sur un sujet qu'on ne maîtrise pas forcément. Eux incarnent ce côté plus accessible, humain, rassurant. Ça passe par plein de petites choses. Être souriant, proposer un café, être à l'écoute, prendre le temps d'expliquer quand quelqu'un n'a pas compris. Ils doivent mettre à l'aise les participants pour qu'ils se sentent sereins et dans de bonnes conditions pour travailler.
Il y a une vraie posture d'animateur à avoir, qui n'est pas simple. Si par exemple on décide de répartir les citoyens en plusieurs tables de travail, l'animateur va devoir surveiller ces tables. Il doit s'assurer qu'il y a une vraie dynamique de travail. Son but, c'est d'encourager les participants à ce qu'ils puissent s'exprimer le plus librement possible, à faire émerger des idées nouvelles, créatives. Mais il se doit aussi d'être neutre, impartial, ne pas donner son avis, ne pas biaiser les participants. Ce sera aussi du rôle de l'animateur de réguler les échanges, pour que tout le monde ait la parole, que certains ne dominent pas les débats ou que les discussions ne dévient pas trop vers du hors-sujet. Alors bien sûr, on n'est pas à l'école. Réguler ne veut pas dire diriger. Il s'agit encore là de trouver un équilibre pour être juste assez présent pour que la parole circule bien, mais suffisamment en retrait pour qu'il ne dérange pas les participants. En bref, l'animateur a un rôle absolument central.
Eh bien, il me semble que l'essentiel est là, non ?
On peut bien évidemment encore parfaire notre démarche. On aurait pu par exemple penser à organiser des moments pour briser la glace en début d'atelier. On n'a pas non plus traité de la question de l'espace. C'est bête à dire, mais la manière dont les participants sont positionnés dans une salle peut conditionner le déroulé de la séquence.
En tout cas, il y a plein de manières d'animer une séquence. Il n'y en a pas une seule, pas une recette magique. Par contre, il y a des ingrédients pour la rater.
Tu peux même me donner des conseils, même aux décideurs, pour être sûr de la rater, cette réunion publique. Pas accueillir les participants, les faire entrer dans une salle où ils ne connaissent personne, où ils sont assis en rang d'oignon. C'est déjà la bonne manière d'être sûr qu'ils ne se sentent bien pas inclus et finalement citoyens de seconde zone. Oui, quand on arrive et qu'on ne connaît personne, ça ne donne pas envie de revenir s'il n'y a pas un moment de présentation. La deuxième chose, c'est de bien présenter un PowerPoint très très long écrit en tout petit. Et puis ensuite de dire quelqu'un a-t-il une question dans la salle, comme ça on est sûr que seulement ceux qui sont déjà très remontés sur le projet disent quelque chose. Et puis je dirais la dernière manière de bien être sûr de la rater, c'est de croire qu'en tant qu'élu on doit avoir réponse à tout, tout le temps, tout de suite.
Voilà, donc je pense que notre démarche de participation elle est prête. Il ne reste plus qu'à assurer une bonne mobilisation des citoyens en passant par différents moyens, communication sur les réseaux sociaux, bouche à oreille, mailing list, stand. On choisit ses canaux de mobilisation en fonction du contexte de son territoire. Il n'y a pas une bonne communication toute faite, comme il n'y a pas une démarche de participation toute faite.
Pour illustrer nos propos, on a essayé d'incarner une élue face à une situation concrète où elle cherche à monter une démarche de démocratie participative. Bien sûr, toutes les situations dans lesquelles déployer de la participation sont différentes. Selon les contextes sociaux, politiques, économiques ou culturels, on devra faire varier nos démarches, les ajuster et les contextualiser.
Au fil de cet épisode, on a voulu vous montrer la pluralité des dispositifs, à quoi ressemble la démocratie participative en action. Et voilà, c'est la fin de cet épisode de Chronique démocratique. Une émission créée et réalisée par Yann Bassereau et Marie Aubert en coproduction avec Radio Campus Paris. On se retrouve dans un mois à 18h. À bientôt !